Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de fin de séance. C'est Areski Sugar qui vous parle. Pour vous dire que je suis en spectacle actuellement au Théâtre Beau-Saint-Martin à Paris. Donc si vous voulez venir voir une superbe heure de stand-up, n'hésitez pas à prendre vos places. Il reste des places pour les trois dernières représentations de la saison. Le 15 juin, 28 juin et 12 juillet. N'hésitez pas à aller sur Bireduc ou suivre les liens depuis la description du podcast ou aller sur sugarfree.com. Merci à tous, profitez bien de cet épisode. Bisous. What's up? Bienvenue dans l'épisode numéro 68 de fin de séance. Aujourd'hui, on va parler de Money, un film de Gela Babluani qui avait réalisé l'excellent 13 Zametti. Money est sorti le 27 septembre 2017, c'est un thriller français, mais on ne va pas parler que de ce film dans cet épisode, puisque on va aussi mentionner quelques films qu'on avait en retard, notamment Seven Sisters, Barbara, qui sont sortis ces quelques dernières semaines. De toute façon, vous avez tout dans la description, le minutage pour directement aller vers les films qui vous intéressent, ou alors laissez-vous emporter dans notre discussion, tout simplement. En attendant, n'oubliez pas d'aller aimer la page Facebook de fin de séance, de nous suivre sur Twitter, Instagram, de nous envoyer des mails. D'ailleurs, il y a la section AFA Mail en toute fin d'épisode pour répondre à vos questions. Fin de séance@gmail.com pour nous envoyer des messages. Et puis, encore une fois, n'oubliez pas d'aller sur iTunes, nous mettre une review, une petite note, hein, si possible 5 étoiles, et dire que nous sommes superbes et que nous sommes votre podcast préféré. J'ai rien d'autre à dire, je crois. Venez me voir le 4 octobre à la Toulouse Comedy Night, au 24 allée Jean Jaurès au Duplex. Et c'est tout ce que j'ai à dire. Du coup, là, c'était Areski Sugar. Bonjour. Et j'étais accompagné de Arnaud Decazes et Jean-Yves Bravo pour cet épisode. Bisous à tous.
En premier, je demande à Arnaud, est-ce que tu as fini Twin Peaks saison 3, Arnaud ?
Non, je suis à l'épisode 5.
Ah, t'es à l'épisode 5, ok. Je suis un peu plus avancé, je suis à l'épisode 12 ou 13,
d'accord.
Je crois.
Pour l'instant, je trouve ça génial.
Ouais, c'est trop bien, c'est vraiment trop bien. Areski, t'as regardé Twin Peaks un peu ou pas ?
Non. Bah oui, bah, les deux premières
saisons. Quand tu l'auras vu, ça serait pas mal de se prévoir sur un épisode à 5 minutes pour en parler, ça pourrait être marrant.
Yes. Enfin,
5 minutes, ce sera certainement pas assez, mais au moins ça peut être cool d'en parler ensemble.
On va faire un épisode.
Vraiment, c'est de la folie, quoi.
On peut faire un fin de série spéciale Twin Peaks.
Ouais.
On pourrait faire même, je crois, 3 épisodes dessus, tellement il y a des sous-intrigues, tellement il se passe de trucs. Alors, sur les news, moi j'ai vu un truc qui m'enchante, j'étais pas du tout au courant. Est-ce que vous étiez au courant qu'il y a Fincher qui sort une série polar sur Netflix ?
Ouais, mais
ouais, Mindhunter.
Qui sort en octobre, là. Mindhunter, ouais.
Mais il sort une série, genre, il a réalisé le pilote et il la laisse tomber, ou comment ça se passe ?
Ben, j'espérais l'inverse, justement, puisque je pense espérer qu'il va faire un peu plus que le pilote, quoi. Après, c'est sûr que si c'est une série où il est juste producteur exécutif et qui fait le pilote, oui, c'est sûr, c'est pas très très intéressant, quoi. Mais le pitch a l'air plutôt pas mal, quoi. Ça a l'air d'être sur de la psychologie de serial killer. Ça a l'air cool. Ça a l'air vraiment pas mal. Ça a l'air bien dark.
Je sais pas à quel point effectivement il est impliqué, parce qu'ils mettent son nom quand même assez fortement. Mais c'est bizarre parce que c'est pas non plus le showrunner. Après, Fincher, c'est lui qui avait réalisé le premier épisode, le pilote de House of Cards, je crois aussi. Hein.
Les deux premiers, il avait fait.
Les deux premiers, ouais.
Et d'ailleurs, tu voyais une différence abyssale dès que tu passes au troisième, quoi. C'était incroyable. Vraiment, ouais.
Ouais, donc je sais pas trop ce que ça voudra dire d'apposer son nom sur Mindhunters. Sinon, j'aime bien l'acteur principal. Je sais pas si t'avais vu la série qui s'appelait Looking, qui était un truc de HBO.
Non.
Et il y a Jonathan Groff qui jouait dedans. Il jouait aussi dans la série Boss Et vraiment, ouais, je trouve excellent. Bon, après, la série était excellente, donc ça pourrait être pas mal de voir ce gars évoluer dans une série où il est protagoniste. Et aussi, la news, c'est que il va y avoir peut-être jusqu'à 5 spin-offs de Game of Thrones.
Ah ouais,
la folie. Le premier pilote, ou je sais pas quoi, vont sortir vers
la poule 2019. Aux
odeurs, ouais, bah complètement, ouais.
Non, mais ça, ouais. C'était sûr, hein. C'était sûr.
George Martin, c'est pas du tout un mec qui s'éloigne en tout cas des séries, etc. Il est impliqué dans 3 des spin-offs. Enfin, genre, ça lui fait plaisir, en fait. En gros.
Ah, mais il a toujours été fan de cette reconnaissance qu'il avait. Il a toujours été bon public, même par rapport à lui-même, par rapport à tout ça. Donc, ça m'étonne qu'à moitié, quoi. Il est très, très fan de ce qui lui arrive et je pense que
ouais.
Je pense qu'il prend plaisir à être dans cette aventure et même l'autre jour je l'entendais dire que c'est un truc assez rare chez les écrivains, tu sais, quand les gens ont tendance à intuiter ce qu'ils ont voulu dire et tout, et lui c'est le premier à dire mais je vais sur les forums de fans et en fait je crois qu'ils ont trouvé, enfin tu vois, ils ont toutes les théories de fans, enfin ils ont trouvé ce qui se passait, ils le confirment assez facilement, donc ça m'étonne qu'à moitié, ouais.
C'est marrant parce qu'on a toujours l'image de l'auteur qui, tu sais, se désinscrit totalement des films ou du cinéma ou des séries, etc. Qui dit non, mais moi, mon œuvre, elle est que sur papier. Et en fait, lui, il est ultra fan, quoi. En fait. D'autres news, d'autres trucs comme ça, je sais pas, des films qui allaient se faire, des séries, non, rien du tout, c'est fini. On peut commencer à parler directement de Money.
Ouais.
All right. Allons-y. Bah ouais, carrément, allons-y gaiement.
Alors, aujourd'hui, donc, on va parler de Money, sorti le 27 septembre 2017, réalisé par Gela Bablouani, avec Georges Bablouani. On se demande comment il a eu ce rôle. Vincent Routier, Charlotte von Berveseles, qui était un thriller, franco-américain. C'est marrant, ça, je savais pas que ça veut dire qu'il y avait de l'argent américain pour produire ce film. Fatigués de leur fin de mois difficile, 3 jeunes sans avenir voient l'opportunité de gagner beaucoup d'argent en volant une mallette à un notable du Havre. Sans le savoir, ils viennent de braquer un secrétaire d'État corrompu et de voler l'argent d'une entreprise criminelle. Débute alors une spirale qui les dépasse complètement. Petit clip.
Pour le paiement par chèque, il me faut 2 pièces d'identité.
Sa femme travaillait ici, elle est morte dans un accident de voiture il y a 6 mois.
Est-ce que vous branlez ?
Oh, prépare un braquage.
Une valise pleine de flouze.
La dernière fois que tu m'as dit ça, j'ai fait un mois de tôle.
On sert beaucoup, beaucoup, beaucoup de blé.
Et c'est quoi le plan ?
On rentre dans la baraque. On chope dans le lit le flingue sur la tempe. Il crache le blé. Simple.
Viens, on le décroche.
Viens m'aider.
La valise qu'on nous a remise hier. On aimerait bien la voir, s'il vous plaît.
Bim ! C'est qui je suis.
Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de Money ? Arnaud, j'avais reçu ton message qui me disait « Ce film est un film qui a été cuit trop longtemps dans un four trop chaud. » Et je l'ai reçu au moment où je m'asseyais pour voir la séance. Et je me suis dit « Eh merde, je vais passer une
C'était peut-être ironique, hein, tu sais pas. Hein, c'était peut-être, on sait pas. Hein.
J'y crois à moitié, moi. Je crois au premier degré complet d'Arnaud quand il m'envoie des trucs comme ça.
Trop bien.
Qu'est-ce que t'en as pensé, Arnaud, de ce film noir à la française, magnifique?
Qu'est-ce que j'en ai pensé? J'en ai pensé beaucoup de choses. Je pense que, bon, il y a beaucoup de choses que je vais dire qui rentrent dans les spoilers, mais...
Jean-Yves nous montre la photo de l'acteur principal qui est vraiment nul à chier. On peut dire peut-être dès maintenant, on va spoiler, ok?
Ouais.
Donc, parce que...
On va vous rendre service, clairement, on va vous rendre service, on va vous dire...
Non mais oui, non mais voilà, donc on va y aller, on va vous dire déjà ce qu'on a pensé, ensuite on va, je pense, faire un petit parcours de tout le scénario en se foutant bien de la gueule de tout ce qui existe dans ce film, mais on peut pas ne pas spoiler parce que vraiment...
Non mais déjà la première chose c'est que en fait le scénario est bourré d'incohérences.
Ah mais c'est de la folie, quoi.
Et en fait c'est un point, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai tendance à détester au cinéma, c'est-à-dire que j'ai l'impression que chaque action des personnages est dictée par l'intrigue plutôt que ce soit l'intrigue qui soit guidée par les personnages. Et tout ce qui s'y passe, en fait, fonctionne comme ça. Et dès le début, en fait, je trouve l'introduction vraiment mal foutue des personnages. C'est-à-dire, on nous introduit à la fois, c'est très succinctement, en fait, donc les trois pieds nickelés qui vont tenter de dérober cette valise d'argent. Et en même temps, on nous montre l'intrigue de ce préfet de police, c'est ça, quelque chose comme ça. Il est quoi exactement?
Ouais, je sais pas, plus ou moins sous-secrétaire de quelque chose. En ministre de l'Intérieur en devenir, en tout cas, aussi.
Voilà, c'est ça.
Il est assez
et on suit son intrigue à lui, et en fait, tout est très très arbitraire. C'est-à-dire que, typiquement, tu vois, la scène qui va déclencher un peu le film, c'est on voit la fille parmi les trois jeunes qui observe quelqu'un qui enlève une, qui prend une valise de son coffre et qui va la porter à l'intérieur d'un café. Et déjà, en fait, cette valise, elle crie « j'ai des billets dedans ». C'est-à-dire que ils auraient pas pu trouver plus discret, tu vois, pour transporter
valise de code nucléaire,
valise argentée, rutilante. Ouais.
Et en fait, c'est très bizarre parce que cette scène, on est à la fois dans le point de vue donc des mafieux et à la fois dans le point de vue de cette fille qui observe ce qui se passe. Et résultat, en fait, c'est il se dégage rien, aucune tension, aucun mystère, aucun, il y a pas de choix qui a été fait. En fait, j'ai vraiment l'impression de voir une introduction presque d'un Scooby-Doo, tu vois, où il y a quelqu'un qui voit un fantôme qui arrive ou quelque chose comme ça. Et donc, le film est censé se lancer sur ça. Et déjà, je trouve que ça fonctionne pas ici. Et ensuite, lorsque le film va se dérouler, il va y avoir de plus en plus d'incohérences. Mais aussi, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'au niveau de la mise en scène, en fait, presque à chaque scène, j'ai l'impression que les acteurs là sont là où ils sont parce qu'on leur a mis un petit bout de scotch pour se tenir ici. Tu vois ce que je veux dire ? C'est très rigide, en fait, la mise en scène. J'ai pas l'impression qu'il y a quelque chose de naturel qui se dégage. Et au-delà de ça, au-delà même de la manière où les acteurs sont posés, la manière dont le film est découpé, souvent je m'y perds, c'est-à-dire qu'il y a un plan d'ensemble et il y a un gros plan et j'ai l'impression que spatialement je sais plus où je me trouve. Tu vois ce que je veux dire sur ce truc. Et donc ouais, en fait, d'une manière générale, je suis désolé, j'ai pas grand-chose à sauver du film, quoi. C'est
déjà ce qui se dégage de ce film, c'est de mauvais acteurs, quoi. C'est incroyable.
Ouais. Alors il y a des mauvais acteurs, genre le frère du réalisateur qui joue le rôle principal. Lui, mais vraiment, en fait, il est là, mais il pourrait faire la queue à la cantine, en fait, ça serait pareil, quoi.
Il y a deux acteurs, le gars qui joue le ministre, enfin le futur ministre, et le père d'un des bandits. Ces deux acteurs sont normalement bons. Mais même dans ce film, ils sont mauvais.
Ouais, ouais.
Et tous les autres acteurs, par contre, ils sont genre juste mauvais. C'est-à-dire que eux, je ne veux pas les avoir dans un film.
Et c'est compliqué, c'est non, mais c'est-à-dire, il y en a d'autres. Même Vincent Rottier, il a déjà été très bon dans certains films. Et là, j'ai l'impression qu'il nous rejoue ce personnage survolté. Mais en fait, ça tourne un peu à vide et je le trouve pas très cohérent, le personnage. En fait, c'est...
Pour reprendre un truc de tout est plot-driven, tu vois, réglé sur l'intrigue, ouais. il y a des mini-plans sur à chaque fois, par exemple, un objet qu'un protagoniste fait tomber par terre. Tout ça pour expliquer aux spectateurs que du coup il ne l'a pas cet objet pour la scène d'après, donc je vous explique pourquoi il va pas l'utiliser, c'est parce que je vous ai montré qu'il l'a fait tomber. Oh, c'est horrible.
Il y a le pire du pire, et là je te jure que j'ai éclaté en fou rire dans le cinéma et les gens à côté ils comprenaient pas. C'était à un moment donné, t'as la fille qui est attachée avec des menottes à un radiateur. Et en fait, au bout d'un moment, si tu veux, elle plonge sa main sous un meuble et elle en retire une clé à molette.
Une clé de
pour se libérer du, comme par hasard, pour se libérer du radiateur, tu sais. Et mais c'est vraiment, je te jure, elle tend la main et puis elle regarde et elle fait « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Une clé à molette, une clé à molette de mécanicien, je ne vois pas ce que ça pourrait être d'autre, tu vois.
Non, attention, parce que ça avait été lancé par son frère.
Non, mais je sais que ça a été lancé, je sais que ça a été...
Il a eu un plan de 25 minutes dessus.
Non, mais attends, ça a été lancé par son frère, mais pourquoi une clé à molette, tu sais?
Mais oui,
pourquoi
mais
il balance une clé à molette? Et dès le début, ça marche pas, dès le début, j'y crois pas, c'est-à-dire que le début de l'intrigue, en fait, c'est des mafieux qui font chanter un espèce de préfet de police pour lui dire qu'il doit faire en sorte qu'une cargaison de cocaïne rentre dans le pays. Et en fait, pour faire en sorte qu'il obtempère, ils font du chantage. C'est-à-dire que ce type qui est plus ou moins préfet de police, il a tué une prostituée. Et les mafieux l'ont aidé à s'en débarrasser, mais ils ont des preuves comme quoi il a tué cette prostituée. Et j'ai envie de dire, bon, c'est un chantage classique, mine de rien, ça suffit. A priori, le mec, il a les chocottes, tu vois, il veut faire avancer sa carrière, etc. Mais non, c'est-à-dire les mafieux, ils disent, bon, on a ça, mais en plus, on va te donner un million d'euros.
D'euros.
Mais pourquoi? Pourquoi ils lui donnent 1 million d'euros en plus de... Je veux dire, ils ont des preuves qu'il a tué une femme, quoi. C'est pas suffisant, tu sais. C'est...
Ensuite, non mais ensuite, si tu rentres dans les mécanismes même de ce qu'il demande, en vrai, pour quelqu'un qui a de l'influence, c'est 1000 fois plus facile d'étouffer le fait qu'il y a une pute qui est morte chez toi et qu'il y a que des photos qui le montrent, ouais, ouais, plutôt que de faire passer des millions d'euros de cocaïne en appelant qui? En appelant genre des chefs d'escadron pour leur dire ouais, n'allez pas au port ce soir-là. C'est... Non mais c'est... Tu vois ce que je veux dire? Ah mais pour vous expliquer, Money, c'est quand même le réalisateur de 13 Amétiques que moi j'avais beaucoup aimé quand il était sorti. C'était voilà du bon thriller film noir avec un peu de réflexion sociale sur le fait que bah t'es pauvre donc tu vas jouer à la roulette russe pour essayer de t'en sortir, etc. Et là, ce film là, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir des collégiens qui essayent de faire un film noir, voilà. Et c'est incompréhensible. Je l'ai dit à Jean-Yves hier, ça ne m'était jamais arrivé, mais j'ai failli sortir du cinéma 2 fois. Il y a un certain moment où je me suis dit, je crois que je vais sortir. Et là, enfin, est arrivé Benoît Magimel. Je me suis dit, bon, reste au moins pour Benoît Magimel. Et j'ai bien fait de rester parce que juste après, il y a eu cette fameuse scène avec le radiateur et la clé à molette. Et dès qu'elle s'enlève, en fait, s'engage un combat d'épée avec le gars, et là j'ai rigolé.
Qui est un des seuls points positifs du film.
Épée contre club de golf. Épée contre club de golf.
Un des seuls points positifs du film pour moi, franchement. C'est-à-dire que moi, les points positifs que je retiens, c'est le personnage de Benoît Magimel, que j'aime bien. Il y a aussi le personnage de Didier, mais Didier, en fait, il a la. Tu sais, c'est. Alors Didier, c'est leur voisin. C'est leur voisin de quartier, en fait, qu'il a des armes, il a des voitures, en fait, donc on comprend que c'est un gars qui est plus ou moins en liberté conditionnelle, ancien malfrat, mais qui essaie de faire des barbecues dans son quartier pour socialiser tout ça. Et en fait, l'idée, c'est que ce mec, il faut lui demander un truc 2-3 fois pour qu'il craque, en fait. Genre, par exemple, il y a un personnage, en fait, qui est complètement idiot, donc on te le fait accepter, un des 3 gars qui va braquer. Qui vont braquer ce politicien là véreux, il est complètement idiot, on te le fait accepter, ok certes, mais quand ce mec va aller chez Didier chercher une arme, il dit à Didier, Didier, t'aurais pas un fusil à pompe s'il te plaît? Alors Didier dit non, parce que ça se fait pas, et puis au bout de 2-3, il dit bon allez vas-y d'accord, et puis il lui sort chevrotine, il lui sort tout, donc ça j'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé le dommage qu'il dure pas plus longtemps ce combat club de golf épée qui était plutôt cool. Et effectivement, pour rebondir, les incohérences, moi,
ouais,
moi
je
y
pense
y a aussi
qu'il fallait le faire durer.
J'ai énormément de mal à accepter, c'est que on te fait accepter très rapidement, comme tous les trucs du film, que ces gars qui sont des espèces de mafieux qui font rentrer quand même un cargo de cocaïne au port de Rouen, donc on imagine que c'est un réseau, tu vois, enfin ça se passe pas comme ça, et on te fait accepter qu'une fois que ces 2 gars ont été arrêtés, le réseau a disparu. Tu sais, il n'y a pas un gars qui va aller toquer à la porte du politicien voir ce qui se passe. Enfin, c'est fini, ce truc, c'est évaporé, quoi.
Et surtout, on te fait accepter que ces pontes-là étaient sur le lieu de la livraison.
Ouais, c'est ça, ouais.
Ouais, ouais. Et il y a tout le clan, tu sais, il y a tout le clan, ils ont fait un coup de filet, ils ont attrapé tout le monde, c'est terminé quoi, il y a plus rien.
Mais tous les trucs, même pour les arranger, c'est-à-dire que pour que l'intrigue marche aussi, il faut que le préfet de police n'ait pas de famille, mais genre rien, pas un frère, ouais, pas une sœur, pas un cousin, et du coup à un moment il dit, de toute façon j'ai rien pour vivre, j'ai pas de famille parce que j'ai passé trop de temps à essayer de gagner de l'argent, tu vois. Et c'est ridicule, en fait. Je veux dire, qui peut croire quelqu'un qui fait une carrière politique comme ça et qui a pas, tu vois, un entourage comme ça,
ouais,
pour le...
Et puis surtout la deuxième moitié, voire les 2/3 du film qui repose sur le fait que 3 mecs qui tombent sur 1 million d'euros décident de repartir parce qu'il y avait un tout petit coffre de la taille d'une feuille A4, quoi.
Mais oui. Ah ouais,
mais déjà, j'y crois pas à cette salle secrète. C'est-à-dire, il y a une salle secrète avec un coffre-fort, mais avec aussi un tabouret pour mettre une valise dessus, tu sais.
Il y a un clavier lumineux sur une statue de lion pour ouvrir une panic room où il y a... Ouais, non, mais le gars, c'est Bruce Wayne, en fait, depuis le début. Non, mais en fait, en vrai, regardez. Si on était dans un Ocean's Eleven, ok, je comprends que quelqu'un qui ne vole que 1 million d'euros se dise, il y a peut-être d'autres trucs à voler, ok. Sauf que ces gens-là, ils ont du mal à boucler les fins de mois, ils doivent gagner 900 euros par mois dans leur boulot de chantier, etc. Ils vivent dans la misère. Donc si tu veux, à partir du moment où tu lui dis tu vas gagner 300 000 euros par tête de pipe, ça y est, c'est la fête, on change complètement la vie. Tout ça pour avoir la sous-intrigue du trop de cupidité, tu sais, d'avoir cette réflexion-là sur money, bien sûr.
Et on en parle aussi du fait que ce coffre-fort, il est apparemment dans du plâtre Mako. Au moulage, quoi.
Non, mais à quoi ça sert d'avoir un coffre-fort
parce que le mec, avec un coup de burin, en 5 secondes, il enlève du mur, tu sais, c'est...
Et d'ailleurs, il n'y a que ça dans cette pièce. C'est-à-dire qu'il y a une pièce où il y a un double coffre-fort, en fait, quelque part.
Ouais, c'est ça.
D'ailleurs, je me demande du coup ce qu'il y a à l'intérieur, parce qu'on n'a jamais su ce qu'il y avait à l'intérieur.
Et en plus, le gars est gringalé, il porte ça comme une baguette de pain, c'est comme si ça pesait 500 grammes, le coffre-fort, tu sais, alors ça pesait genre au moins 25 kilos, tu vois, enfin, c'est de la folie, quoi.
Et avec le truc, même dès le départ, tu vois, tu disais sur Didier, en fait, tu lui poses deux fois la question et il accepte, mais tous les personnages sont un peu comme ça. C'est-à-dire que après, quand ils ont fait le coup chez ce mec, avant de partir, tu vois, t'as Vincent Rottier qui dit « Vas-y, on se partage l'argent ici ». Et t'as les autres qui disent « Ben non, en fait, t'es con, on se barre tout de suite, quoi ».
Ouais.
Et en fait, le scénario a besoin qu'il se partage l'argent maintenant. Du coup, Vincent Rottier demande une deuxième fois et les autres disent « Non, ouais, t'as raison, ça craint rien.
» Ouais, ça ne veut rien dire.
Mais c'est complètement... Enfin, je veux dire, mais comment je peux y croire à ça, quoi ?
En fait, je veux arriver à une fin pour mon film et ça passera coûte que coûte pour y arriver.
Il y a aussi le personnage de ce gars qui fait chanter, qui a l'épreuve, là, qui, dans la première scène du film, on te fait comprendre que ce gars, c'est un ninja, il peut s'introduire chez le gars instantanément. Ouais. Et il va passer tout le film sur sa chambre d'hôtel, bloqué par une messagerie vocale. Tu sais, à aucun moment, il va pouvoir, en fait, se déplacer pour aller voir ce qui se passe, en fait. Tu sais, genre, il a un plan super détaillé. Et il tombe sur la messagerie du gars. Du coup, il attend sur son lit, en fait, voir ce qui se passe. C'est-à-dire que,
voilà. En fait, il pouvait littéralement juste repoper chez lui et dire, bon, bah, écoute, voilà, voici mes preuves. Je prends mon 1 million d'euros. Bisous. Terminé. Pas de film. Et je ne vois pas pourquoi d'ailleurs il devrait y avoir un film, pourquoi il appelle, ces informations au téléphone en plus, trop risqué.
C'est l'autre truc du film noir, tu sais, on en avait parlé dans l'émission sur Après la tempête de Kore-eda avec Arthur. C'est, tu sais, dans le film noir, c'est cette idée que l'argent, en fait, il est jamais présent pour lui-même, il représente toujours un aspect du personnage, tu sais. Ouais. Et dans Après la tempête, c'était son impossibilité à structurer sa vie et le fait qu'il se mettait toujours à jouer l'argent qu'il avait dans l'espoir d'en récupérer un peu plus. C'était extrêmement bien expliqué, c'était assez touchant et ça crée un personnage. Et ici, en fait, j'ai vraiment l'impression, c'est genre situation de base, c'est-à-dire on nous montre, regardez, ils sont pauvres, donc argent, mais qu'est-ce que ça représente cet argent pour eux ? Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Il y a jamais quelque chose qui est exploré. Pourquoi Vincent Rottier a besoin, comme tu dis, pourquoi Vincent Rottier a besoin de revenir pour avoir plus d'argent après. Et on pourrait le justifier, un personnage ultra avide et tout, mais c'est pas du tout traité dans le film, en fait. Ça reste très très en surface, quoi. Vu que c'est de l'argent, tout le monde en a envie, donc je suis censé comprendre que les personnages en veulent, mais c'est jamais raccroché à quelque chose vraiment de concret, quoi.
Mais en fait, c'est ça, c'est vraiment un mauvais double effet qui se coule, dans le sens où t'as une espèce de proposition au début qui a l'air pas mal, c'est-à-dire on te présente un petit peu des parties de Rouen comme littéralement des bidonvilles, en fait, donc on comprend qu'on part sur un espèce de thème d'inégalité, donc ça peut être, tu vois, tu dis, ah, pourquoi pas, on arrive chez ce gars qui est ultra riche, ça se voit assez vite. Et alors, du coup, une fois de plus, ce truc va être relégué en toile de fond et va être jamais exploité. Donc, on va avoir, ça va laisser place à une histoire standard. Mais ce que je me suis dit, c'est bon, ok, j'accepte. Mais alors, à ce moment-là, fais en sorte que ton film tienne la route. Et donc, du coup, t'as le double effet négatif. C'est-à-dire que c'est pas traité et t'as même pas de quoi te rabattre sur quelque chose de consommable,
tu vois. En fait, le MacGuffin devient le film. C'est-à-dire, tu sais, c'est ce qu'Hitchcock appelait le MacGuffin, c'est les microfilms de la mort aux trousses, c'est-à-dire c'est le truc qui a pas tellement d'importance mais qui permet de driver l'intrigue. Et mais en fait, c'est toujours, tu utilises ce MacGuffin pour essayer aussi d'exprimer quelque chose dans le personnage. Et ici, en fait, c'est vraiment du pur argent. C'est-à-dire que, par exemple, tu vois, on pourrait très bien comprendre pourquoi le héros a besoin de cet argent. Il a un bébé à s'occuper, il doit s'occuper de son bébé, etc., etc. Mais j'ai jamais de relation entre lui et son bébé. C'est-à-dire, c'est vraiment tout ça, ça reste purement théorique.
Il n'y a pas vraiment d'enjeu. Je vois pas à quel point ils sont plus dans la merde qu'avant. Je veux dire, ils sont pauvres. Qu'est-ce qui fait que là, aujourd'hui, tu vas faire un braquage alors qu'hier, t'en as pas fait, en fait, des braquages?
Ouais, c'est ça, ouais.
Donc, je vois pas le projet de ça.
Et comment ils partent du braquage? C'est-à-dire, c'est parce qu'une fille leur a dit, il y a un mec qui avait une valise argentée.
Une valise.
Et ça doit être trop bien, tu vois. Et ils y vont, et genre, c'est le préfet de police, et genre, y a rien. Y a pas un gendarme qui monte la garde. Tu sais, il est seul dans sa maison, il n'y a rien, quoi.
C'est fait avec les pieds, ce film, c'est pas possible, quoi. Je veux dire, c'est...
Non, mais c'est Paper News, quoi. Enfin, il y a un truc...
Paper News, c'est mieux, il y avait des acteurs excellents. Mais Et est-ce qu'on en parle juste vite fait de cette scène dans le supermarché? Une scène d'exposition pour que la chef du supermarché puisse venir dire à un caissier...
Sa femme
est morte il y a 6 mois, elle travaillait ici. Alors laisse-le payer par chèque, avec simplement une seule pièce d'identité. Déjà, d'où t'as besoin de 2 pièces d'identité pour payer par chèque? Ça n'existe pas. Je veux dire, à un certain moment, arrive avec ton acte de naissance pour payer 3 Kinder Bueno, quoi. Non, mais... Et ça, c'est tout ce film. C'est-à-dire, on va faire une scène pour dire ce qui s'est passé dans la vie de ce gars. Non! Montre-le-moi ou n'en parle même pas et je vais subodorer moi-même des choses.
Ça suffit. Enfin, une fois que tu les as vus dans leur cadre de vie, t'as pas besoin de dire beaucoup plus, en fait. Enfin, on te rajoute des strates,
soi-disant.
Mais fais-le vraiment. C'est comme à un moment, en fait, parce que on nous le dit dans les dialogues, on apprend que la fille est amoureuse du frère du réalisateur. Mais en fait, ça sert à rien. C'est pas exploité. Pourquoi,
C'est ça. Ça ne sert à rien.
Pourquoi? En fait, pourquoi tu mets ces scènes si elles servent à, si tu les exploites pas vraiment, en fait?
Ce film, il fallait le commencer par un barbecue chez Didier où tu voyais un petit peu la solidarité des pauvres ensemble, tu vois, et tu voyais la vie de tout le monde et la vie de chacun. Tu intégrais un enjeu financier comme dans les Goonies pour dire ah là là, on va perdre notre maison si on n'a pas d'argent, etc. Et là, tu pouvais embrayer sur quelque chose d'un peu plus cohérent. Bon, et bien sûr, il faut changer tout le côté mafia bidule, quoi. Parce que si je suis un mafieux et que je peux te faire chanter, je vais pas te donner 1 million d'euros pour faire plaisir, quoi.
Mais non, mais c'est...
On n'a pas parlé du gang des Serbes aussi avec les blagues de souris qui tapent des chats.
Oh là là, mais qu'est-ce que c'est mal joué de tous les côtés, c'est fou.
En fait, ce qui est trop marrant, c'est que non, on voit le mec, c'est-à-dire que non seulement il joue mal, mais en plus il nous montre qu'il est même pas capable de raconter une blague correctement, en fait. C'est parce qu'en fait, il raconte une blague, on voit qu'en plus de pas savoir jouer, il sait pas raconter des blagues. Donc c'est
même
double effet.
La seconde blague dans la voiture, il coupe, et ensuite ça revient dans la voiture et tout le monde fait tellement il a dû mal jouer, tu vois.
On pouvait pas le garder, quoi.
Et pareil, mais cette intrigue, c'est-à-dire on nous introduit d'abord qu'il doit de l'argent à un gang serbe, tu vois. Déjà pourquoi, en fait, je sais pas.
Alors déjà, en plus, on n'a pas trop compris au tout début. On comprend qu'à la fin, en fait, qu'il leur devait de l'argent quand il a tué le gars. Mais au début, je me suis dit, tiens, peut-être qu'il a dealé pour eux ou un truc comme ça, tu vois. Je me suis dit, peut-être qu'il a dealé pour lui et qu'il a pas atteint son quota, tu vois.
Ouais, c'est ça, mais on sait pas, c'est jamais.
Mais on sait pas, ouais. Et du coup, tu fais, ah non, en fait, il a emprunté 20 000 euros chez ce Serbe. For what, mec? Tu vis dans de la merde, qu'est-ce que t'as branlé avec cet argent, quoi?
Ensuite, le truc, c'est quand il revient avec son sac avec 300 000 euros à l'intérieur. Sur qui il tombe sur la route? Le gang des Serbes, quoi.
Bah évidemment.
Genre, c'est la seule voiture qui passe, c'est celle-là, tu vois.
En fait, ce film m'a ultra énervé. C'était horrible. Hein. Oui, juste Benoît Magimel qui fait des trucs avec la SNCF, ça c'était sympa à regarder.
Mais pareil, c'est un non-personnage, lui, quoi. C'est le robot du préfet de police, quoi. Il y a un truc... C'est le Terminator, tu sais.
En vrai, s'il peut tout faire, je vois pas pourquoi ils lui disent pas de tuer les mafieux dès le début, tu vois. Avec ce gars, tu lui dis non, mais en fait, supprime les mafieux maintenant, s'il te plaît. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où le spectateur peut trouver 1000 issues à tous ces problèmes qui sont soi-disant sans issue, justement, c'est que t'as mal écrit ton film, c'est pas possible.
Ouais.
Donc voilà. Je pense qu'on s'arrête là, on l'a bien bâché, je crois.
C'est un calvaire, hein, franchement. N'y allez pas, hein. N'y allez pas.
Ah ouais, non, mais c'est pas possible.
Franchement, n'y allez pas.
En fait, c'est,
parce
c'est
que,
même
parce
pas
que
drôle.
Là
en
où
fait.
Tu, là où c'est vraiment éprouvant, c'est que c'est pas, tu verses pas non plus dans le second degré, en fait. C'est-à-dire que c'est, ça reste nul, quoi, tu vois. C'est-à-dire, tu peux même pas te, tu vois, je rebondis sur ce que tu dis du truc de la clé à molette.
Ouais.
Si on avait été dans un parti pris de second degré, ça aurait pu tourner en gag, tu vois.
Ah ouais.
Mais là, ça l'est pas, c'est juste mauvais, quoi. Mmh. Et du coup, ça, c'est épuisant, quoi, regardez.
Ouais, ça te draine de toute énergie vitale, quoi. Et c'est pareil, tu vois, ils auraient pu nous faire quelques coups d'épée en plus, tu vois. Ou un sabre laser, ou quelque chose comme ça, pour qu'on s'ennuie pas.
Ouais, et puis moi, j'avais noté aussi l'espèce de flemme. Parce que c'est ça, en fait. Moi, j'ai l'impression que les acteurs, ils ont la flemme de jouer, la flemme. Et pareil, sur le script, la flemme d'une cohérence de registre de langage aussi. Parce qu'à un moment, il y a un truc qui m'a marqué. C'est la fille, à un moment, elle est dans un dialogue avec
son frère.
Son hôte, là, donc le gars qui est en train de braquer. Non, non, le mec, le ministre. Le préfet de police, là. Et à un moment, il lui dit un truc et elle lui dit « Oh, ça me fait une belle jambe !» Tu sais, genre, elle emploie des expressions du tout, pas du tout associées à son personnage. C'est-à-dire que, genre, tout le monde se laisse aller, quoi. C'est genre, il y a même ce genre de flemme, même dans les mots qu'ils emploient.
Oui, oui.
C'est-à-dire que...
Personne n'était impliqué dans son personnage, quoi. En fait. Tout le monde s'en...
Ouais, voilà, c'est ça. On laisse tomber complètement. c'est triste.
Combien de miam vous donneriez à ça? Moi, je vous le dis, je vais mettre 0. C'est de la merde. C'est de la pure merde.
Je mets 0 miam, moi.
Moi, je vais mettre 0,5 pour Benoît Magimel, que j'aime bien dans son personnage. Qui a la flemme, mais ça colle, en fait. Il a la flemme, il dit... Il arrive et... Oh, qu'est-ce que t'as fait encore? Un peu gras avec ses grosses lunettes, là. J'aime bien.
Ceci dit, ça lui va bien. Moi, j'aimerais bien un spin-off que sur les gens qui sweep up un peu les problèmes des riches, tu sais, un peu l'homme de main de Frank Underwood aussi dans House of Cards, tu sais, le gars qui s'occupe de tout, quoi. Et moi, j'aime bien ce genre
de
personnage.
Et là, le personnage était intéressant parce que tu comprends que c'est un père de famille, il est marié, ça a l'air d'être le monsieur tout le monde, un petit peu caché dans son 4x4, tu vois. Et ça a l'air d'être ça. Son excuse un peu pour se fondre dans la population, quoi. Et ça, c'était assez, assez sympa. Donc, ouais, 0,5. Un petit 0,5.
C'est grave. Hein. Allez, maintenant, on va parler des autres films qu'on a pu voir, notamment. Je crois que tu voulais parler du film avec Juliette Binoche, Arnaud.
Ouais.
Qu'est-ce que t'en as pensé?
Qui l'a vu?
Tu es seul, je crois, à l'avoir vu celui-là.
Je suis le seul. Oui, donc c'est Un beau soleil intérieur de Claire Denis. Écoute, moi j'ai trouvé ça pas mal.
Ouais.
C'est donc grosso modo, c'est on suit le personnage de Juliette Binoche dans plusieurs des histoires d'amour successives qui sont montrées un peu comme des vignettes ou des petits éclats d'histoire comme ça. Et en fait, finalement, ce que j'ai trouvé intéressant dans le film, c'est que plus qu'une véritable comédie romantique comme ça, c'est en fait un film sur la parole, un film sur le dialogue. C'est-à-dire que quand tu prends ces vignettes-là, il y a énormément de dialogues qui vont tourner en rond pendant 10 minutes pour pas aboutir à grand-chose, par exemple. Et en encadrant ça, en fait, on se rend compte que finalement, les mots en eux-mêmes participe assez peu dans la communication de ce qui est communiqué quand deux personnes parlent. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que je vais prendre un exemple. Dans le film, il y a une très très longue scène avec Nicolas Duvauchel, qui est acteur, et où en fait, ils vont passer le temps à dire « qu'est-ce que tu veux faire ?» Je sais pas, moi, qu'est-ce que tu veux faire, toi? Ben, je sais pas, tu veux rester, tu veux monter, tu veux... Et ça va durer très très longtemps comme ça, et ils ne s'échangent rien, et ils arrêtent pas de répéter, mais de toute façon, il faut qu'on parle de notre histoire. Et à ce moment-là, quand ça arrive jusque-là, généralement, ils font « bon, ben à ce moment-là, on change d'endroit, genre on va dans mon appartement ». Et là, reprend le dialogue et aucun n'ose dire en fait ce qu'ils ont à dire.
D'accord.
Et ça devient assez drôle en fait au bout d'un moment, quand le dialogue s'épuise comme ça. Et du coup, en fait, c'est vraiment ça, et j'ai l'impression que chaque scène illustre comme ça une fonction du dialogue. Il y a une autre scène avec Xavier Beauvois, par exemple, qui va passer son temps à humilier un serveur et à lui demander des choses impossibles pour montrer son statut social. Tu vois ce que je veux dire? Et pareil, une scène assez longue, tu vois, qui va évoquer ça, et j'ai l'impression que le film essaie d'explorer toutes les petites possibilités comme ça. Et c'est marrant parce que ça m'a fait réfléchir à ça dans le cinéma, parce que c'est vrai que d'une manière générale, les dialogues au cinéma ressemblent assez peu aux dialogues qu'on peut avoir dans la vraie vie. Parce que généralement, dans la vie, en fait, quand on se souvient d'un dialogue, on se souvient de la synthèse de ce dialogue, c'est-à-dire de, du contenu du dialogue qu'on a eu avec quelqu'un. Et généralement, au cinéma, le cinéma va s'intéresser à ce contenu-là et raconter une histoire à partir de là. Et c'est pas ce que fait ce film-là. Ce film essaye de retrouver un rythme beaucoup plus naturaliste du dialogue. Et bizarrement, quand tu le regardes, ça te laisse beaucoup plus extérieur que si le dialogue avait été retravaillé pour être un dialogue de cinéma. En fait, juste en mettant un cadre autour de ces dialogues-là, on se rend compte de ce qu'ils sont. Alors que c'est pas une réflexion que tu peux avoir forcément dans la vraie vie. Tu vas avoir énormément de dialogues qui tournent en rond avec des amis. Tu vas pouvoir rester 2 heures à une terrasse d'un café et avoir vraiment l'équivalent de un quart d'heure de contenu de parole. Mais tu vas pas forcément te rendre compte de cette répétition. Et en fait, une fois que c'est filmé, tu te rends compte de ça et ça permet de réfléchir sur le contenu de ces dialogues-là. Et c'est quelque chose, j'ai l'impression, qui est quand même assez travaillé dans le cinéma d'auteur français, c'est-à-dire ça peut faire penser un peu à Abdelatif Kechiche par exemple, tu vois, qui a un travail un petit peu similaire sur ça, ou récemment on avait parlé de Juste la fin du monde aussi de Xavier Dolan qui avait qui travaillait cette même chose.
Et donc ouais, il y a quelque chose hésitations de Marion Cotillard
de Marion Cotillard parlait, par exemple. Mais ici au-delà de ça, j'ai l'impression que c'est véritablement le sujet central du film. D'accord. Et du coup, j'ai trouvé ça assez intéressant, même si c'est vrai que d'une manière générale, tu vois, les films de Kechiche, par exemple, c'est pas forcément ce que je préfère au cinéma. Je préfère une histoire qui a été reconstruite. Et d'ailleurs, j'ai trouvé ça assez étrange de la part de Claire Denis qui avait pas fait ça dans ses films précédents. Mais au final, en fait, j'ai trouvé que c'était un film assez intéressant, quoi. Avec beaucoup de surprises, il y a Gérard Depardieu dans une scène géniale à la fin qui joue un radiesthésiste qui essaie de guider Juliette Binoche dans sa vie amoureuse. Et comme d'habitude, quand il arrive, tu vois qu'il est au-dessus du game, quoi. C'est vraiment ouais. La scène tourne autour de lui. Il fait beaucoup ses répétitions aussi, mais il a un charisme tellement incroyable que t'as l'impression que tout tourne autour de lui. Et ouais, au final, en fait, c'est vraiment un film que je recommande.
D'accord. Combien de miams tu donnerais ?
Je vais y mettre 3 miams.
Ok. Cool.
Comment tu expliquerais le critique bashing qu'il y a dessus ? Parce que j'ai vu des critiques d'une violence.
Ouais,
et ça ressemblait à du règlement. C'était pas du règlement de compte, mais ça ressemblait à du. Elle avait l'air. Ça avait pas l'air objectif, en fait, tu vois.
Je comprends que le film divise, parce que comme je dis, c'est un film qui épuise. C'est-à-dire que ça construit pas vraiment une histoire. L'histoire, elle est très lacunaire en elle-même. C'est-à-dire que tu vas avoir des moments de différentes histoires d'amour de Juliette Binoche. T'arrives pas à reconstruire un personnage avec. Parce que comme je dis, c'est pas forcément le but du film non plus, tu vois. C'est vraiment un film qui va essayer de traiter une chose, qui est la parole, et qu'il fait. Mais en fait, je comprends qu'on reste extérieur à ça.
Oui, peut-être qu'il y a des gens qui sont allés le voir en se disant ça va être une comédie romantique oui, standard et du coup s'attendent pas à ce contenu-là, peut-être.
On a vu Barbara aussi, Arnaud et moi, donc sorti le 6 septembre 2017 de Mathieu Amalric avec Jeanne Balibar et Mathieu Amalric notamment. Écoutez, moi, c'est un film que j'ai beaucoup apprécié, en fait, qui surfe sur la ligne du méta, parce que dans le film donc de Barbara, le réalisateur qui est joué par Mathieu Amalric réalise un film sur Barbara, donc un biopic. Donc alors que moi, pour le coup, moi je croyais vraiment que c'était juste un biopic très premier degré, en fait, ce film-là. Donc j'étais assez surpris de voir que il y avait une mise en abîme de ce réalisateur qui, en gros, à chaque fois qu'il voit son actrice incarner Barbara, tombe totalement amoureux et oublie qu'il est en train de faire un film, en fait, sur Barbara. Genre, presque, il faut que quelqu'un revienne le chercher pour lui dire « Non, mais mec, t'as des trucs à gérer, nous, et tu es en train de parler à une actrice et pas à Barbara elle-même. » Et franchement, ouais, non, j'ai bien apprécié. Les acteurs sont excellents. J'ai deux petits bémols sur ce film, mais vraiment, si ça avait été changé, ça aurait pu être pour moi un gros, gros film 2017. Alors, c'est tout con, mais en fait, j'ai vu dans le générique de fin que Mathieu Amalric joue le rôle de quelqu'un qui s'appelle Yves blablabla. Alors que moi, je croyais qu'il jouait son propre rôle, en fait. Et je trouve qu'il aurait dû aller jusqu'au bout du méta et dire que, bah non, l'actrice, elle s'appelle Jeanne Balibar et le réalisateur, il s'appelle Mathieu Amalric, tu vois. Vraiment être dans un, dans une profonde mise en abîme de ça. Et le second bémol, c'est la fin du film. En fait, j'aurais pas terminé à cet endroit-là. J'ai pas trop compris le pourquoi d'un espèce de retour à la campagne, en fait, et à la maison à la fin du film. Ça aurait dû finir sur autre chose, mais voilà. Mais sinon, vraiment très bon film pour moi. J'ai trouvé très très intéressant les manières d'entremêler des footage historiques de Barbara et l'actrice qui joue Barbara dans certaines scènes. Je repense à une scène assez excellente pour vous dire le niveau de méta qu'il y a. C'est l'actrice qui descend avec son script dans le bar d'un hôtel et qui demande à quelqu'un dans le bar de l'hôtel de l'aider à réviser une scène. Et en fait, tu réalises que tout est écrit. C'est-à-dire qu'en fait, la personne qui fait réviser cette scène, c'est écrit, en fait, dans le script. Et j'ai trouvé ça génial, quoi.
Après, moi, je comprends tout ce que tu dis. C'est-à-dire que moi, je trouve que c'est un film intéressant. Je pense qu'il m'a moins touché que toi. Mmh. Et bon, déjà, la première chose, ce qu'il faut dire, c'est que c'est vraiment un film impressionniste qui fonctionne par touche comme ça, où il va pas y avoir vraiment de fil narratif et ça va être vraiment par touche essayer de recréer un personnage comme ça. Mais par contre aussi, ce qui est vraiment intéressant, c'est que par cette mise en abîme, ça raconte aussi le processus de fascination qui fait que quelqu'un va s'intéresser à un personnage pour essayer de le refaire. Et tout ce travail là est super intéressant avec Jeanne Balibar qui regarde des vidéos de Barbara projetées dans son appartement, qui essaie de reproduire les gestes, qui essaie d'en retranscrire l'essence, les moments où tu glisses de l'un à l'autre, ou comment presque Barbara contamine Jeanne Balibar. Je trouve ça vraiment intéressant, mais c'est vrai qu'au final, bon, parce que je suis souvent au cinéma très très axé sur la narration, c'est tout ça, j'en ai tiré un plaisir théorique, mais j'ai ressenti assez peu d'émotion en fait devant le film. Je ouais. vois en quoi c'est intéressant, je vois où ça amène, et au final, ça m'a laissé, c'est un film qui m'a laissé un peu froid, quoi.
Parce que t'aimes pas Barbara, c'est pour ça. Tiens. Non, ouais, pour le coup, moi, c'est la fascination pour le personnage, etc., pour le personnage et enfin, de Barbara et aussi le personnage dans le film, ça a fonctionné, ouais, sur moi. Je trouvais que c'était aussi une analyse pas mal de la chanteuse aussi et de l'impact qu'elle a pu avoir sur, je sais pas, sur la chanson française et des choses comme ça. Il y a aussi une scène où à un moment il est dans un PMU. Et il y a la chanson la plus connue de Barbara qui passe L'Aigle Noir. Et t'as un mec bourré qui va commencer à pleurer en chantant les paroles de L'Aigle Noir parce que tout le monde la connaît et en même temps c'est très mélancolique comme chanson, donc c'est normal qu'ils se mettent à pleurer parce que, et donc je trouvais que c'était vraiment cool.
Il y a des petits moments aussi à la fin, il joue une scène devant un des participants de cette scène vers la fin du film.
Ouais.
Où on est dans l'appartement de Barbara et une fois que la scène est terminée, il se lève et il va regarder une affiche qui est accrochée au mur et il dit elle était pas là cette affiche. Et je trouve ça assez beau parce qu'en fait ça ramène le film aussi à ce qu'il est, c'est-à-dire que ce que ce sera jamais le personnage, ça sera de toute façon la réinterprétation du personnage tel qu'il le voit. Amalric le dit à un moment donné, il y a l'actrice qui lui demande mais en fait je comprends pas, tu fais un film sur Barbara ou tu fais un film sur toi, et il y a lui qui dit ben en fait c'est la même chose. Et ce qu'il dit de comment en fait Barbara l'a embrassé à la sortie d'un concert à un moment donné quand il était un adolescent. Et que en fait c'est que ça a beaucoup compté dans sa vie, et comment il représente en fait la foule qui aime Barbara, et comment il se représente lui-même en train de représenter la foule qui acclame Barbara.
Il y a plein de scènes d'une intelligence comme ça, demander l'autographe, quitter son siège de réalisateur pour se mettre dans le public et tout. Non mais c'est vraiment très très intelligent, je trouve. Et putain, voilà, fallait donner ton nom. Tu fallait donner son nom à son personnage. Ça aurait été vraiment
génial. Et le rapport complet. Balibar est génial, hein, dans le.
Ouais, elle est excellente. Vraiment, vraiment excellente. Donc voilà, film, moi, quoi. Je le recommande énormément. Et moi, je mets 4 miam quand même pour ce film. Donc, ok. Voilà. Et toi?
Je vais mettre 3 miam aussi.
Ok. Très bien. Et on a vu aussi, c'était un peu en retard également avec Jean-Yves, on a vu Seven Sisters, un film de Tommy Virkola avec Noomi Rapace, Noomi Rapace, Noomi Rapace, Noomi Rapace, Glenn Close et Willem Dafoe. Donc il y a un film de SF qui parle d'un monde où qui est surpeuplé, tout simplement, d'un futur où le monde est surpeuplé, et donc la politique de l'enfant unique est mise en loi, et en gros il y a quelqu'un, un père qui va cacher un grand-père pardon, qui va cacher ses 7 petites filles en leur faisant prendre l'identité d'une seule et même personne, et voilà, et de là va se créer des problèmes parce qu'elles vont être repérées et pourchassées par en gros la police futuriste, quoi. Et alors, qu'est-ce que tu en as pensé, Jean-Yves ?
Donc déjà préciser que le titre original c'est What Happened to Monday, hein, traduit par Seven Sisters, whatever. donc du coup, c'est vrai que j'aime bien le parti du départ de ce truc. Moi, c'est la SF slash anticipation, c'est un genre que j'aime bien. Donc effectivement, la trame est cool, hein, ce truc de surpopulation qui est envisagé en fait par des OGM, en fait, si j'ai bien compris, c'est-à-dire qu'ils créent de la food en OGM pour nourrir tout le monde, et en fait c'est ce qui crée une espèce de surfertilité où les gens se mettent à avoir plein de gosses.
Exactement.
Et en fait du coup ils sont obligés d'implanter cette politique de l'enfant unique. Ce que j'en ai pensé, c'est que encore une fois sujet super intéressant. Qui va être relégué assez vite en toile de fond, qui va laisser place à beaucoup de scènes d'action plutôt fades, en fait. C'est plutôt mal chorégraphié, en fait. C'est quand tu vois des scènes d'action mal chorégraphiées que tu te rends compte que c'est quand même important. C'est un peu comme quand tu manges ton sandwich et qu'il n'y a plus la mayo. Enfin, il manque un truc, quoi. Tu vois, c'est genre, il y a un truc bizarre qui se passe. Tu sais pas ce que c'est.
Franchement, pour un blockbuster, il manque la viande, hein.
Il manque du steak, c'est clair. Noumi Rapace, qui pèse 50 kilos, détruit des agents dans genre des Navy Seals. Elle les détruit en les poussant avec son doigt, tu sais. C'est un peu comme tu joues à un jeu vidéo en mode facile, tu sais. Tu mets des kicks à des méchants, ils partent par la fenêtre, quoi. Enfin, c'est un peu ce qui se passe. Mais surtout l'intrigue de base, en fait, qui est sympa, c'est que chaque sœur a un nom d'un jour de la semaine, ce qui est quand même dommage de l'avoir enlevé du titre du film, quoi, parce que le truc de Monday, c'est que Monday, c'est le nom de la sœur
qui en fait a le
mieux réussi dans la société, parce qu'en fait la société est en fait murée en espèce de ghetto, en fait, où l'îlot central de la métropole, c'est là où il y a les banques, les assurances, machin. Donc Monday, elle a réussi à monter dans une entreprise et à avoir une promotion. Donc du coup, c'est sur elle que table le plus la réussite de la survie de la famille, quoi. Et ce qui se passe en fait très vite dans le film, c'est que Monday un soir ne revient plus au travail. Et du coup, les sœurs se demandent ce qui a pu lui arriver. Et ce qui est sympa en fait, c'est que chaque sœur doit en fait connaître l'histoire de toutes les autres sœurs. Et il faut pas faire de gaffe, en fait. Donc du coup, il y a un truc qui est ça va être dans les points positifs du film. Moi, j'ai vachement aimé le côté maquillage, coiffure, en fait, parce que là, c'est clairement super impressionnant. Il y a des moments, tu regardes des scènes. Il y a la première scène autour de la table où t'as 7 fois Noumi Rapace, où c'est assez impressionnant. Et il y a des moments, je me disais, mais comment ils ont fait? T'as des mouvements de caméra à l'épaule, en fait, vraiment tout le temps, où t'as 3-4 fois Noumi Rapace. Je sais vraiment pas comment c'est possible. Donc tout cet aspect là, tout cet aspect artifice est sympa, mais malheureusement c'est laborieux, quoi. C'est laborieux, et puis l'intrigue, et il y a des incohérences de malade. Franchement, Reski, tu me diras, il y a un truc qui m'a rendu ouf. C'est, alors, l'idée, c'est que le gouvernement, pendant ce gouvernement de police, en fait, autoritariste, ils ont toujours des voitures noires opaques, tu sais, ils sont tous en noir, tu sais, ils ont des drapeaux noirs. Et ils découvrent l'adresse à un moment de des sœurs, et qui sont au nombre de 6. Ils envoient 3 gars. C'est genre ils ont découvert 6, ils envoient 2 fois moins de gars. Bon, bref, c'est peut-être machiste, on sait pas trop. Ils envoient 3 gars, donc ils ont l'adresse, et ça se passe mal. Et après, ils vont plus jamais retourner à cette adresse, en fait. C'est-à-dire que les meufs, elles vont partir. Elles vont pouvoir transformer l'appartement en common center, en fait, avec des ordi qui permettent aux autres sœurs de se guider dans la ville. Mais à aucun moment, en fait, donc
ils reviennent à ce moment-là. Ils reviennent. Les gens.
C'est encore une fois un truc de voilà, comment on fait pour envoyer une heure de plus de film, voilà, te faire accepter un truc vraiment mais absurde au possible. Donc voilà. Alors je pourrais pas dire que j'ai passé un plus mauvais moment devant Monique que devant Seven Sisters.
Oui, oui, ouais, ouais.
J'irai pas jusqu'à dire que c'était nul.
Oui, oui.
Mais clairement, on est encore dans un film Netflix, quoi, où ils arrivent pas. C'est pour ça que j'attends avec impatience de voir ce que ça va donner le Scorsese Netflix, parce que je me dis, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Pourquoi c'est encore le film Netflix qui reste très fade, quoi, insipide, insipide et fade.
Moi, par contre, je le dirais, c'est un film nul, voilà, que j'ai trouvé ultra téléphoné. Alors moi, pour le coup, le prémisse ne m'intéresse pas, parce que le truc de le monde est surpeuplé, c'est fini, c'est de la vieille SF, en fait. C'est pas ça notre problème, et qu'en fait, peu importe si on a plus ou moins prouvé que en fait, ce sera pas ça le problème du futur, qu'on est surpeuplé, mais en fait, en vrai, le vrai problème, c'est par exemple, on a assez de bouffe dans le monde pour nourrir 12 milliards de personnes. Donc le vrai problème, c'est la répartition de la bouffe, tu vois. C'est pas... ou alors, comment faire des terrains agricoles dans le désert, etc. Ça, c'est de la SF vraie. Mais la surpopulation, c'est fini, en fait. Mais bon, admettons que j'accepte. Comment gérer le problème de surpopulation? Le modèle de l'enfant unique. Alors, dans le film, je suis désolé, je vais devoir spoiler, dans le film, si tu fais plus d'un enfant, ton second enfant ou tes troisième enfant, etc., vont aller en cryosommeil. Voilà.
Alors, ah oui,
c'est alors le truc du cryosommeil, c'est sorti de nulle part. Si t'es d'accord pour dire qu'on a créé le cryosommeil, il va y avoir des millions de personnes qui vont dire, oh bah les gars, moi perso je vais en cryosommeil, rendez-vous plus tard, tu vois. Or non, parce que bien sûr, comme c'est ultra téléphoné, tu te rends compte que c'est un peu en mode soleil vert, parce que en fait, en vrai, le cryosommeil, c'est juste un incinérateur. Ils mettent des gosses dans un incinérateur et c'est tout. Et moi, je pose la question de tout simplement, excuse-moi, la Chine a fait pendant très longtemps la politique de l'enfant unique, en mettant juste une amende exorbitante quand t'as ton second enfant, à quel moment il y a besoin de mettre des gosses dans un incinérateur? Tu fais juste peur avec un impôt et les gens ils vont s'arrêter de faire deux enfants et terminé, tu vois.
Après on sait pas ce qui se passe en Chine hein, là tu t'extrapoles hein, tu sais pas, tu sais.
Non mais et donc en fait déjà tout ce prémisse là, de base, je suis pas d'accord et du coup tout ce qui va s'en découler, et c'est-à-dire qu'en fait il y a cette espèce de section de l'enfant unique en mode genre, je sais pas, c'est comme si c'était des mecs de l'URSSAF qui avaient des guns, quoi, au final. Qui vont te dire, ils ont tué le portier de l'immeuble pour pouvoir choper les jumelles. Je vois pas, attends, mais d'où tu es ultra violent envers des gens qui n'ont rien fait? Ça n'existe pas.
Mais admettons, c'est pas intéressant parce que c'est peut-être pas plus d'actualité ou je sais pas, mais à la limite, ce qui aurait été intéressant, c'est un peu ce que fait la série The Handmaid's Tale, c'est d'amener une problématique sociale à la culture occidentale ou plus précisément américaine. Donc là, ce qui aurait été intéressant, c'est qu'on confronte en fait à ce truc de l'enfant unique ce que c'est que d'être par exemple américain et en quoi ça impacte leur culture et leur société, tu vois ce que je veux dire?
Ouais, sauf que
et
là,
en fait c'est jamais traité en fait.
C'est totalement éludé. Mais et même du coup il y a tous ces problèmes. Et d'ailleurs bon, de manière générale il faut arrêter les films de SF tournés à Bucarest et compagnie. Et j'en ai marre là de mettre justement des stickers noirs sur des Mazda et nous faire croire que ça c'est une voiture du futur, ça. Mais arrêtez de nous faire chier, tu sais, parce que c'est en mode genre Babylon AD, on n'a pas eu le temps de designer des choses parce que le mec était pas là, etc. Et ces films qui sont cheap, si vous voulez les faire cheap, restez en intimiste, ne parlez pas du gouvernement,
et en fait,
ne parlez pas
de
choses
avait,
comme ça, vous n'avez
ça,
pas
y avait,
la thune
y avait largement
pour
le budget pour faire un truc de SF minimaliste en fait.
Exactement.
Le même concept mais minimaliste mais pas assez pour faire le truc à la Oblivion de genre gros budget visuel.
Moi il y a un truc dès le début du film qui m'a énervé, où je savais que je regardais un film de merde, c'est que au début du film, donc on t'explique toute cette histoire de cryosommeil, etc. Et dès la mise en place dans le monde de ce genre de choses, donc ça se passe en 2040, et il y a une pub qui passe où un docteur dit « Et votre enfant sera mis en cryosommeil et il reviendra dès que les jours seront meilleurs », tu vois. 30 ans plus tard, pour retrouver Noomi Rapace adulte, et qu'est-ce qu'on voit derrière dans les télés? Exactement la même pub qu'il y a 30 ans. Quand est-ce que toi, tu allumes la télé et tu vois des pubs des années 90? Ça n'existe pas. Donc tu vois ça... c'est pour moi, c'est un gars, il n'a pas cherché à réfléchir son film, il n'a pas cherché à se dire que les choses évoluent. En 30 ans, il y a eu encore plus de technologies, etc. Et en gros, pour moi, tout était téléphoné de base. Je vais spoiler, mais bon, j'avais vu le truc de lundi, j'avais vu le truc du cri au sommeil. Enfin, parce que tu sais que ça va se finir comme ça, et tu sais que ça va se finir par oh là là, on va exposer les méchants. Donc quoi en fait? Donc on est surpeuplé, donc on va mourir. Ok, génial, merci de nous avoir.
Ouais. Et puis ils sont surtout là où ils se sont fait vraiment prendre à leur propre jeu, c'est que ils sont clairement trop ambitieux dans le projet de faire 7 fois Noomi Rapace, parce que clairement c'est pas réussi. Tu sais, ben moi ça me fait vraiment penser au truc de oh là là. Tom Hardy, il a fait des jumeaux dans Legend. Nous, on va pas faire des triplés. On va en faire 7. Tu sais, genre 7, ça va être costaud, ça va être bien, quoi. Tu vois. Et le problème de ça, c'est que à l'arrivée, même si physiquement et chevelurement entre guillemets, t'arrives à les distinguer, on rentre jamais assez dans les personnages. Ça reste des nuances trop voisines. Donc, t'arrives jamais à savoir qui est qui, en fait, finalement.
Alors,
donc, ça
après...
a pas vraiment d'intérêt, quoi.
Après, il y avait un truc qui était esquissé un peu, et je trouve que c'est dommage de pas avoir exploité, mais c'était justement la différence des personnalités en fonction de la journée. Et genre, par exemple, la plus fêtarde, ça va être samedi, ou des choses comme ça. Et en fait, je trouve que c'est dommage parce que ça aurait pu être une critique de la société moderne de le week-end versus je travaille la semaine, etc., si c'était mieux pensé. Et en fait, en vrai, ça... si on avait eu un peu plus de temps passé avec les sœurs à pas forcément tataner des Navy Seals, j'aurais plus apprécié une espèce de commentaire sur la société capitaliste de genre peut-être les meufs du week-end, elles sont moins stressées que les meufs de la semaine, tu vois, ou des trucs comme ça.
Ouais. Et c'est vraiment dommage parce qu'il y a sur ça, sur la tension que ça peut créer entre les attentes, entre quelle sœur et qui, il y a vraiment un moment qui est trop bien. Tu sais, c'est en fait, on voit que tous les lundis, quand Monday passe la grille pour rentrer dans l'hypercentre, elle se fait pseudo draguer par un gars à la porte, quoi. Et en fait, tu vas savoir plus tard que c'est son mec. Et en fait, ce qui est assez sympa, c'est qu'à un moment, il y a une scène. Donc, ce mec va frapper à la porte de l'appartement. Donc, les quatre sœurs, elles sont là. Putain, qu'est-ce qu'on fait? On lui ouvre ou pas? Donc, elles décident d'habiller une meuf qui va ressembler à Monday pour que le gars n'y voit que du feu, quoi. Et en fait, donc, elle va laisser rentrer ce mec dans l'appartement. Donc là, il va y avoir une espèce de tension assez négative, une grosse tension sexuelle entre les deux. Et là, le mec, il va se mettre à lui mettre les mains autour du cou, genre à l'étrangler. Donc là, tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Il va la violer, quoi. Et en fait, il y a un blanc, il y a une tension. Et là, le mec dit, ah, mais je croyais que t'aimais ça, en fait. Et c'est juste que, l'idée, c'est que Monday, c'est juste que elle est barrée au lit. Et donc, en fait, c'était pas du tout ça, quoi. On t'a un peu piégé sur la personnalité de Monday parce que c'était une facette de sa personnalité que tu connaissais pas. Donc, effectivement, ça aurait été peut-être plus, ça serait exploitable en série, par exemple. Tu vois, si un épisode était un jour de la semaine et un personnage un jour, bah là, clairement, ça aurait pu être cool. Et puis voilà. Donc, très décevant.
Ouais. Non mais moi vraiment les films de SF maintenant je peux plus être accepté autant de choses de quelqu'un qui ne veut pas réfléchir, quoi. C'est quelqu'un qui, comme je vous disais hier en envoyant la vidéo, pour moi ce film il respire le gars qui fait à moitié son travail et qui sort à 16h de l'écriture de son scénario. Écris-le jusqu'à la fin. Fais-moi ton monde et s'il y a des failles dans ton monde, je vais te le dire et tu retravailles derrière, quoi.
C'est moins bien que le moins bien des épisodes de Black Mirror, tu vois. C'est tu prends le plus mauvais épisode de Black Mirror, Seven Sisters, c'est un poil en dessous, tu vois. C'est genre ça, quoi, le niveau.
Ça. Mais moi, bon, on va dire que peut-être pour je sais pas, ouais, 2-3 idées, je vais mettre un miam, voilà, un miam.
Ouais, c'est
même
ouais,
pas,
moi je vais mettre,
je sais pas,
moi je vais mettre, bon, il y a Noomi Rapace quand même, elle a du charme,
Noomi Rapace, ça... oui, elle a une belle dentition, un miam.
Ouais. du coup ça m'a donné envie de revoir Passion de Palma, parce que son personnage de Monday fait un peu penser à son personnage dans Passion. Ouais, donc je vais mettre 1,5 parce que ça reste inacceptable pour 2h.4 de film, quoi.
Ouais, non, c'est vrai que... Mais n'allez pas le voir, clairement, il faut pas, hein, genre, il faut pas vous infliger ça. Moi, j'étais énervé pendant tout le film. J'étais en train de dire, oh là là, oh là là. Et est-ce qu'on finit par...
Moi, j'ai vu des trucs encore, hein, j'ai vu des
ah,
trucs.
Ah, vas-y.
Je suis allé voir Mon Garçon avec Guillaume Canet, ouais. De, je sais plus le réalisateur, je sais plus comment il s'appelle, Carion, je crois, Christian Carion. Ouais. Donc petit polar slash thriller français, petit budget, sur fond de kidnapping qui se passe je sais plus trop dans l'est, centre-est de la France vers les Vosges, tu vois. Donc l'histoire, ça commence direct en fait, c'est Guillaume Canet qui joue un père de famille dont le fils a été enlevé. Donc bon, moi personnellement je vais bientôt être père de famille, donc déjà je me sens très concerné par le film, tu vois, c'est un film qui me parle beaucoup. Et du coup son ex-femme Mélanie Laurent décide de l'appeler à la rescousse pour voir ce qui se passe, pour essayer de l'aider. Et grosso modo, il va se passer un petit peu... L'idée, c'est que Guillaume Canet, il va un petit peu partir en rogue, un peu dans son coin. Il va un petit peu essayer de résoudre l'enquête tout seul. Donc, c'est plutôt pas mal, en fait. Je m'attendais vraiment à... J'avais envie de rien voir d'autre. Je trouve ça... J'aime bien Guillaume Canet joue vraiment super bien. L'intrigue est pas trop mal. Elle est assez simpliste, mais au moins, elle est assumée, tu vois. C'est-à-dire que... ça va pas être au niveau d'un Prisoners par exemple, où à la différence de Prisoners tu vas avoir à la fois l'intrigue du père de famille en parallèle de l'intrigue du policier où ils sont tous les deux en train d'essayer de résoudre le truc. Là tu suis vraiment que Guillaume Canet. C'est assez cool parce que lui ça vire dans une noirceur assez assez dérangeante, dans le sens où lui en faisant son enquête tout seul, il a des pistes, il sait pas vraiment si ces pistes sont bonnes, donc il va faire des trucs qui sont peu orthodoxes, donc il va se heurter à la façon de faire des gendarmes, quoi, donc ça va être un peu compliqué. De la tension, donc c'est vraiment le bon petit thriller du vendredi soir. Ça marche aussi un samedi soir, hein. Bon, c'est pas aussi bien que ça ressemble beaucoup à Prisoners, et j'y ai pensé parce qu'il y a notamment une scène où c'est clairement peut-être un clin d'œil, enfin c'est soit du plagiat soit un clin d'œil, je préfère la deuxième. ça marche pour la soirée polar US burger, enfin là c'est franchouille, donc ce sera plus soirée petit bourguignon thriller avec Guillaume Canet du samedi soir. Film tourné en 6 jours d'ailleurs, enfin ça m'a impressionné. Je lisais une petite critique tout à l'heure où disait que c'est tout petit budget, film tourné en 6 jours. Donc c'est la preuve que tu peux vraiment faire un truc sympa, un film efficace en pas longtemps, et c'est voilà, c'est un petit film efficace. Ça aurait pu, ça c'est genre c'est comme un très bon téléfilm, tu vois. C'est genre tu vois un téléfilm et genre c'est très bien. Et là c'est un peu l'effet que ça laisse. Donc voilà ce que j'ai vu. Je suis aussi allé voir Marie, traduction de Gifted, whatever.
Chris Evans,
ouais, qui joue l'oncle d'une petite surdouée mathématicienne de 6 ans qui résout des équations de Maboulus. L'idée, c'est que il veut qu'elle ait une vie normale parce que cette petite est surdouée, donc ils veulent surtout pas qu'elle aille dans une école pour surdouée parce que ça nuirait à son développement, etc. Donc c'est mignon, c'est un peu mielleux, mais c'est pas ouf, ça va pour le dimanche après-midi quand tu dors, quoi. Et je finirai par mon gros coup de cœur, et là c'est un retard parce que je l'avais pas vu au ciné, mais je sais pas si vous l'avez vu, mais ça c'est mon coup de cœur de la semaine de malade, c'est j'ai vu Problemos de Eric Judor, adoré. J'ai tellement aimé ce film, j'ai tellement rigolé, quoi. J'ai retrouvé les paillettes de Eric Judor dans Platane, quoi, c'est-à-dire à chaque épisode où t'étais MDR, t'étais sur du donc voilà, juste l'idée c'est que c'est Eric Judor qui se retrouve dans une communauté chez des zadistes, donc communauté autosuffisante, permaculture, etc., altermondialiste, et en fait lui il arrive là un petit peu en stage de lâcher prise avec sa femme, tu sais, on suppose qu'ils vont rester là 15 jours. Et donc, du coup, tout le film, en fait, montre l'entrechoquement de cette communauté avec Eric Judor. Mais Eric Judor qui fait du Eric Judor, tu vois. Donc, il va faire ses blagues habituelles. Donc, c'est vraiment... Mais c'est tellement drôle. J'ai trop lolé. Je sais pas ce que vous en avez pensé, si vous l'avez vu.
Ouais,
je crois qu'on en avait déjà parlé.
Ah ouais, je crois, hein, il me semble. Ouais. On a beaucoup... Moi, j'ai beaucoup aimé, beaucoup rigolé. J'aime bien. Et c'est intéressant de voir ce genre de... Et j'espère que le film de Fabrice Eboué coexister va être un peu comme ça. C'est-à-dire, en gros... Un peu intelligent et peut-être aussi la réponse aux mauvais films tels que... Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, etc. En gros, tu vois.
Moi, je crois pas. Hein. Des bons moi, comiques. J'ai un peu peur.
Tu penses?
Ouais.
Et du coup, alors juste pour terminer avec La Femme Mail. Donc, il y a Amandine qui... Alors, deux secondes. En fait, en gros, sa question, c'était parce que il y avait Terminator 2 qui était ressorti, on en avait déjà parlé d'ailleurs. Pour vous, quel est le meilleur rôle de robot en gros au cinéma? Enfin, qui a joué le mieux un robot? Voilà. Je ne sais pas.
Roger Hauer, ça compte?
Bah, je pense, ouais. C'est un répliquant, ouais. Donc, ouais, complètement. Ben,
Roger Hauer dans Blade Runner, alors. On en parle la semaine prochaine dans fin de séance.
Tout à fait.
J'ai remarqué que Areski, il filtre pas mal. C'est beaucoup de questions de filles, non? C'est-à-dire, tu jettes à la poubelle les... Qu'est-ce qui se passe là?
Non, trop pas. La dernière fois, il me semblait que c'était deux mecs, je crois.
Il promet des réponses en échange de 0,6, il paraît. Et moi, j'aime beaucoup, de façon récente, j'aime beaucoup Michael Fassbender dans Prometheus. J'adore, je sais plus son prénom, mais je crois que c'est Alika Vikander, un truc comme ça.
Vikander
dans
Ex Machina.
Dans Ex Machina, qui joue exceptionnellement bien. Et les robots des Aliens, en fait, hein, les plus anciens. Il y a Bishop notamment avec son gun, son couteau kata là, entre les doigts, là, c'est pas mal.
Ouais, j'allais dire Lance Erickson, moi je suis fan. Et en fait, bon alors, c'est pas forcément. Ouais, non, je mentirais parce qu'en fait, c'est une intelligence artificielle, mais c'est pas quelqu'un. Mais j'aurais dit Her parce que, en fait, je trouve que Scarlett Johansson, pour moi, en fait, c'est le futur du robot quelque part, dans le sens où, en fait, maintenant, on va plus avoir besoin d'avoir forcément un corps, quoi, pour son intelligence artificielle.
Ouais, parce que c'est la next wave, c'est les box avec les voix, hein, tu vois, que tous les gros constructeurs, et, ouais, genre Google, Amazon et tout, c'est la voix dans la maison, c'est le next thing, quoi, hein, ça a l'air de...
Mais, ouais. Sinon, si on peut prendre des intelligences artificielles sans corps, moi, je dis HAL dans 2001, l'Odyssée de l'espace aussi.
Je sais pas qui joue, d'ailleurs, HAL.
Je me rappelle plus, mais cette voix sans aucune intonation, elle est tellement flippante, ça te marque à vie, ce truc.
Et c'est vrai que pour le coup, c'est vrai que c'est lui qui a créé un peu toute la façon de jouer effectivement des ordis et des robots pour le reste du cinéma, quoi, à partir de là. Et puis bon, puisque la question était aussi axée sur Terminator, je dois avouer que Robert Patrick en T-1000, il est génial, quoi. Il fait trop flipper, on dirait vraiment le truc.
Après, là où je mesure un peu, c'est qu'en termes d'acting pur, il fait un peu toujours la même gueule tout le film, quoi.
Ouais.
Un peu.
Ouais,
quand même,
mais
hein.
Je sais pas, mais il dégage
un
truc. Il porte
un petit peu en fronçant les sourcils. C'est pas. il joue bien, quoi, tu vois, mais c'est pas.
Très difficile à jouer, en tout cas.
Ouais, je pense pas. Non, je dis pas que c'est pas difficile à jouer, mais je trouve qu'il y a une,
c'est répétitif,
une la palette, tu vois, de d'acting est pas très visible, quoi.
Mais on a terminé, donc je vous dis à tous à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine pour deux épisodes sur Blade Runner.
Exactement. Du coup, on va sortir et l'épisode premium sur le Blade Runner de 82 et forcément la suite 2049 qui se paye des critiques d'ailleurs de ouf en ce moment. Donc j'espère que ça va vraiment être bien. Voilà, bisous à
Avec
tous.
Plaisir, bisous.
Bisous.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com